Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Quelles sont les pratiques à éviter pendant, par exemple, l'alimentation? Il y a quand même certaines pratiques à éviter pour ne pas, entacher la production ou peut-être la gestion de cet élevage, ou entamer la gestion de cet élevage.
Bon, il faut éviter, lorsque l'on veut réussir l'élevage de porc, que ce soit pour nourrir la truie ou les gorées ou les autres, il faut surtout, dans la mesure du possible, éviter de donner des aliments qui sont périmés. Ça veut dire, par exemple, les issues que l'on peut ramasser à gauche à droite, mais qui seraient peut-être moisies. Donc, les aliments qui ne sont pas propres à la consommation, il ne faut pas les donner à l'élevage parce que ça risque de poser des problèmes de santé et donc ça anéantit l'activité. Donc, une alimentation doit être faite à base des matières qui ont encore toute leur valeur. C'est ainsi que les techniciens d'élevage dans tous les coins qui peuvent renseigner les
éleveurs. Je ne sais pas si c'est à tort. À l'époque, on parlait des excréments des chevaux, qui, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a un terme qu'on utilisait là, qu'on devait en principe donner au porc, et ça faisait quand même, c'était quand même nutritif, je ne sais pas. Mis à part, au fait que vous avez parlé de l'alimentation riche
en protéines, éléments minéraux, en glucides.
Donc alors c'est nous au Congo peut-être un aliment.
Ah, dans les matières.
Les matières, voilà.
Ok, c'est-à-dire que dans l'alimentation du porc, comme pour les autres, même pour les volailles, il est correct de faire un aliment. Bon, pour nous au Congo, c'est le maïs qui est le plus rencontré comme céréales, même si il faut qu'il y ait des compétitions entre les hommes et les animaux. Mais si quelqu'un veut faire une production correcte, il peut s'organiser, il faut trouver un peu de maïs. Et il y a des issues aussi du traitement des blés. Il y a les tourteaux de soya, ou bien les tourteaux de soya. Et il y a tout plein de trucs qui participent à la ration. Ça s'appelle le soya.
Il y a aussi les déchets qui découlent de après qu'on ait traité la boisson au niveau des brassicoles,
oui.
Qu'on utilise aussi.
Tout à fait. Il y a la graisse, à laquelle la plupart des diverses de porcs recourent. Et elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Mais je n'encouragerai pas un éleveur à faire ses porcs en étant focalisé et en donnant que la graisse. Que ce soit sèche ou humide, comme on l'a fait de la brasserie. Je n'encouragerai pas un éleveur à ne donner que la graisse, parce que la graisse n'est pas un aliment complet. La graisse mérite d'être complétée.
Alors, nous avons des réactions. Oui. Jérémy Do à Bandon-Deville, Jean-Léonard à Bougna, et nous avons reçu, au travers de notre adresse email, Joe Nzonga du Nord Kivu, qui dit bonjour. Monsieur le journaliste, ma question est de savoir comment on peut lutter contre la peste porcine dans un élevage. Cela conduit souvent à l'échec de l'élevage du porc. Donc la peste porcine est très dangereuse. Ça peut même occasionner l'échec, donc la production ne peut pas être normale. Alors comment on peut lutter contre la peste porcine?
Ah, merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à notre ami qui a posé la question. C'est pas que la peste porcine peut réduire la production, mais quand la peste vient, elle décime et toute l'activité
animale.
Exactement. La seule façon, la meilleure façon d'éviter la peste porcine, c'est d'être prévenant. Parce que souvent, quand elle n'est pas apportée par le contact physique d'un travailleur qui a eu ferme, qui a la maladie, ou qu'on n'a pas mis les os dans l'autre bâtiment, elle peut venir lorsque on recourt pour quelqu'un qui n'a pas de verra, qui fait recourir au verra d'une ferme à côté, il peut faire venir le verra ou amener sa truie là-bas. C'est seulement dans ces échanges-là, pour chercher la fécondation et la reproduction de son cheptel, c'est souvent à ce moment-là qu'intervient cet accident. Parce qu'une ferme peut être indemne, mais vous allez à une autre ferme. Peut-être que la peste, elle vient de commencer, mais elle n'a pas encore commencé à décimer, et vous laissez votre bête. Après la saillie, elle revient. C'est comme ça que la maladie circule. Et entre autres, alors, par rapport, pour couper cette chaîne-là, l'idéal serait que chacun puisse avoir la possibilité
et le verra,
d'avoir un verra et une truie. Voilà. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que l'entretien d'un verra n'est pas facile si on n'a pas un nombre élevé de truies. Parce qu'alors, le verra, vous devez entretenir au quotidien, il mange des grandes quantités, mais il vous rend le service. Bon, s'il arrive que les truies sont gestantes, sont pleines, le verra, il sera au chômage à ce moment-là chez vous.
Alors pourquoi l'entretien des verra est très drastique par rapport à celui de la truie?
Oui, bon, parce que le verra, sans le verra, il n'y a pas de reproduction. Mais ce qui porte la production, c'est la truie. Donc, on a plus besoin de truies dans un élevage que des verras pour avoir la possibilité de plusieurs mises bas. C'est ainsi que, généralement, il y a un verra pour jusqu'à 8 truies. Alors, mais si quelqu'un peut avoir 8, au même plus de 8 truies, je crois que l'entretien d'un verra peut être justifié. Parce qu'alors, il ne consomme pas pour rien. Parce que, au travers de la production, les gorées, les porcelets, les ventes, il y a toujours les moyens pour continuer à entretenir. Donc, pour bien couper la chaîne, il y a éviter de changer les bêtes, mais aussi, si les gens sont implantés non loin des eaux courantes, surtout éviter de recourir aux eaux des rivières. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en amont. Peut-être que dans les fermes en amont, il y a déjà la peste déclarée, et quand les travailleurs recours à cette eau-là pour nettoyer vos bâtiments de grèche, ou même dans le cas extrême, il peut se permettre pour donner cette eau comme eau de consommation, c'est parmi les voies qui peuvent faciliter la contagion et donc décimer le troupeau.
Jérémy Do, vous êtes à Bandundu, bonjour.
Oui.
Jérémy, quelle est votre préoccupation? Oui, parlez un peu fort, Jérémy.
J'ai dit, je vous souhaite d'abord mes meilleurs vœux. J'ai des préoccupations à
vous poser. Vous voulez également? Voilà, Jerry.
Ma première préoccupation est de savoir quels sont les meilleurs aliments pour qu'un porc soit à une meilleure vie.
Merci, Jerry.
Donc, la seconde question, est-ce que cela a de l'impact qu'un porc ne soit pas plongé dans une étendue bourreuse ou dans un mar d'eau?
Bon voilà, alors on va passer d'abord à Jean-Léonard, à Bouya. Bonjour Jean-Léonard.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour. Oui, Jean-Léonard, quelle est votre préoccupation?
Oui, vous avez déjà abordé une partie de la réponse de ma question, ça concernait la maladie porcine, la peste porcine ici. À Bounia, ici, dans la grande partie de l'Ituri, notre cheptel est vraiment décimé par cette maladie, les services concernés à l'élevage n'arrivent pas, faute de moyens, à arrêter cette maladie. Ça décourage maintenant la population pour ne pas avancer, parce que ce sont des bêtes qui rendent beaucoup plus services aux parents, aux élèves, qui parviennent même à payer les études avec le prix de vente de ces bêtes. Maintenant, c'est malheureux pour nous. Nous pourrions avoir, par notre invité, un conseil ou les moyens, comment on peut conseiller le service concerné pour que les gens puissent être encouragés en fait de bien produire le cheptel ici chez nous.
Merci beaucoup, Jean-Léonard. Nicolas, vous êtes à Arou. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Ah, c'est la suivante. Hein.
Allez-y.
Comme l'invité, oui, je vous écoute. Comme l'invité avait dit, la maladie se propage surtout pendant la période de la pluie. Mais nous constatons ici à Arou, à pleine saison sèche, vraiment, la maladie se propage toujours.
Mm-hmm.
Alors je voudrais poser la question, comment nous pouvons...
Ça, c'est là. Merci beaucoup. Merci Nicolas, un coucou particulier à ceux qui nous suivent au banc de Nouville, ceux qui sont également à Bounia et à Roux, donc nous sommes d'accord avec vous. Nous avons dans ce studio l'ingénieur Eddy Ilunga, zootechnicien, qui pourrait répondre à vos interventions.
Oui, en tout cas, je remercie tous les auditeurs.
Et d'abord pour Jérémy Mido, qui parle des aliments.
Oh oui, Jérémy qui parle des...
Qui pourrait garantir une bonne croissance de produits.
Voilà, je suis en train d'éviter de dire qu'il ne faut que X, Y, Z. Parce que les aliments, ils sont une composition bromatologique que tout.
Les aliments qu'on peut trouver facilement au Congo.
Voilà,
donc c'est au moins
le maïs.
Le maïs.
Le maïs peut entrer dans la composition. Il y a le soya. Il y a l'adresse, comme vous avez évoqué.
Oui.
Il n'est pas très encouragé d'utiliser le tourteau, à moins que ce soit le véritable tourteau de palmiste. Parce que je reconnais que sur le marché, il y a presque plus de véritables tourteaux de palmiste, donc issus de l'extraction de l'huile de palmier de palmiste. Mais c'est surtout des noix broyées qui apportent tout. Et donc, on n'a pas maîtrisé la composition. Donc, il y a le maïs, ça se compte en engraissement, en élevage, en crustacean. Mais il y a aussi le manioc. Les carottes de manioc, il y a la pomme de terre, il y a les patates douces, ce sont les aliments que le porc valorise bien. Et aussi, le porc, il est d'abord omnivore. Donc, il y a l'herbe, et toutes sortes d'herbes. S'il est en liberté, le porc seul prend tout et équilibre un peu la qualité de ce dont il a besoin. Mais quand on a en crustacean, on le garde, on l'empêche, il est aéré partout, il est bon de lui apporter une quantité, une qualité d'aliments qui peut lui permettre de faire le résultat dans le délai, en partie. Donc, c'est ainsi que, il y a, si les racines et les tubercules, le porc le valorise bien, et surtout si on peut les bouillir pour lui, mais même en cru aussi, le porc les rentabilise correctement. Les légumes, bon, évidemment, les légumes tels que les feuilles de patates, les tubercules, les patates douces, les, comme je disais encore, la pomme de terre, les céréales. Bon, même le riz, je pense le valoriser aussi. Donc, quand on veut faire la production et avoir une bonne santé, il ne faut pas oublier d'apporter des éléments minéraux. Bon, des éléments minéraux et des vitamines qui peuvent rencontrer dans les fruits qui sont pour la consommation humaine, les mangues, et tout ça, ça peut participer à apporter des vitamines, des papayes, pourquoi pas, et surtout les papayes, les graines de papayes, ça participe aussi à entretenir, à lutter contre les vers, la vermineuse.
Donc, voilà, ça c'était Jérémy Do qui a parlé des aliments, et Jean-Léonard à Bounia revient également sur la maladie porcine. Voilà, donc vous avez la question, si tu peux encore revenir sur ça.
Oui, bon, par rapport...
Et même Nicolas est revenu sur ça en disant ce n'est pas seulement la saison de pluie, mais on constate que chez eux à Arou, que pendant la saison sèche, il y a également, nous avons dit, l'épizootie qui est saisonnière.
Oui, mais il y a aussi un problème avec la peste. C'est quoi? Vous pouvez avoir votre élevage qui est décimé ou qui soit attaqué. Mais il arrive que quand l'élevage est attaqué, si vous avez commencé à avoir des cas de mortalité, vous êtes sûr que c'est la peste. On vous encourage à abattre tout le cheptel, parce que la maladie est déjà dans vos murs. Alors, s'il arrive que l'éleveur ou le fermier, après avoir abattu ces animaux, parce qu'il a vu un cas de maladie, et qu'il se permet de manger cette chair-là, il devient vecteur des microbes pendant au moins 12 mois. Ce microbe vit en lui, il peut le sortir. C'est-à-dire que si, avant une année, il recommence l'activité d'élevage, quelle que soit la saison, pluvieuse ou sèche, il est, c'est par les excrétions que lui fait, la sueur, ses éternuements, c'est alors lui qui contamine le nouveau cheptel. Si déjà les bêtes ne sont pas venues, pourtant, la maladie d'où elles viennent. Donc, la saison, parce qu'elle se déclare quelque part, et les gens, il y a même des bêtes qui meurent, peut-être dans la mousse, et qui sont jetées dans les eaux. Alors, ces cadavres sont en train d'assurer l'accumulation de la maladie, parlez-en, mais dès qu'elle est dans un, si quelqu'un a mangé le porc, et les porcs que nous achetons sur le marché, nous ne savons pas pourquoi quelqu'un a abattu. Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé à la période de production, ou peut-être qu'il a eu ce problème, qui menaçait son élevage, il a tout
il abattu.
Voilà. Et si ce qu'il a abattu, avant qu'il ne crève, que les bêtes ne crèvent d'elles-mêmes, il y en avait déjà qui avaient les microbes, qui avaient la maladie, mais qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore décimé, le fait de consommer cela, c'était bon, moi aussi j'ai fait l'activité porcine, avant les 12 mois, sans savoir qu'il y a eu une bête qui était déjà malade, et ça, c'est comme ça que ça garantit la continuation de l'épizootie, alors que ce n'est pas, ça, ça peut apparaître en dehors des moments où on sait que généralement c'est en pleine période pluvieuse, ou alors, après les saisons sèches.
Oui. Ben alors, une curiosité également, Eddy, à quelle fréquence peut-on désinfecter son élevage pour éviter à ce que, donc, disons, pour prévenir les cas d'épidémie, hein,
d'épidémie. Normalement, comme je disais, l'hygiène, c'est un des piliers de la réussite. Il n'y a pas de fréquence pour dire. Une fois le mois, non.
Une fois non. L'année.
Mais pour mettre tous les soins de son côté, il faut chaque jour un nettoyage correct des loges, c'est-à-dire des installations. Et chaque jour, un nettoyage correct des loges avec l'eau, quand elle est disponible, savonneuse, et même avec des désinfectants. Ça permet de diminuer la population de microbes qui existe partout où il y a la vie. Il faut réduire le taux de la population microbienne, ça va réduire un peu la capacité ou la fréquence des maladies. Mais aussi, donc, par des désinfectants, ou alors même, bon, je peux citer, peut-être les abeilles, oui. Il est peut-être à la portée de tout le monde dans les marchés, même dans les détails. Si quelqu'un peut nettoyer à l'eau savonneuse, et même aussi avec les abeilles, ça peut permettre à désinfecter. Quand même, il faut faire attention de ne pas mettre des abeilles dans l'eau de boisson, dans l'abreuvoir, parce que les abeilles, il est nocif pour la consommation. Ce soit des animaux comme des hommes. Mais quand il faut désinfecter l'air ou des couchages où ils font leur déjection, il y a lieu de nettoyer avec des abeilles ou même des désinfectants.
Voilà, nous avons beaucoup à dire, entre autres, on va revenir encore sur ça.
Oui.
Je l'ai dit à Ndunga, je crois qu'il y a encore des préoccupations qui sont restées en suspens. Les auditeurs gardent encore dans leur tiroir. On va revenir pour une deuxième partie encore pour ce sujet.
Oui.
Le temps pour nous peut-être de résumer. Quand vous voulez vous lancer dans cette activité porcine, il faut d'abord connaître ce que vous cherchez, savoir qu'est-ce que vous voulez
concrètement. Oui.
Voilà, il faut connaître les produits,
oui.
Pour connaître la quantité que vous désirez, et aussi avoir en tête les deux éléments indispensables, garantir l'alimentation conséquente,
voilà.
Et puis de tenir compte de l'hygiène, c'est-à-dire entretenir l'environnement, vous l'avez souligné, en tout cas il n'y a pas une fréquence retenue,
il faut que ce soit le plus régulièrement
possible, et ça vous permettrait d'éviter en tout cas l'épizootie qui se déclare pendant l'année d'une manière saisonnière, ça peut être pendant la saison des pluies ou encore pendant les grossesses, et la plupart des cas, c'est la peste porcine qu'il faut éviter.
Ouais.
En tout cas, merci d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir protégé ces éléments. À très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.